19h-20h, conversation chez Lapérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
Bonsoir à tous et surtout à toutes. Et bienvenue Maria Pourchet dans Conversation chez Lapérouse. Maria, vous publiez Western aux éditions Stock, un roman ambitieux, un des romans dont on parle, un des principaux romans de cette rentrée littéraire. C'est l'histoire d'Aurore, une mère célibataire épuisée qui quitte Paris. Mais c'est aussi l'histoire d'Alexis, un acteur de théâtre qui devait jouer Don Juan de Molière et qui en fait préfère jouer Don Juan en coulisses. Ça lui pose quelques problèmes. Il va finir par rencontrer Aurore. Maintenant, je vais pas raconter tout le livre non plus. D'où est partie l'idée de s'intéresser à cette race d'hommes assez décriée?
Alors c'est vraiment multifactoriel hein, le départ de ce livre. Pour moi c'est un peu la suite de ce que j'avais fait. Alors c'est pas la suite narrative hein, mais
dans feu
ouais, où j'avais envie de m'interroger à ces deux mêmes personnages qu'on trouvait, enfin pas ces deux mêmes personnages, mais ces deux...
Le banquier dépressif et l'acteur
voilà,
séducteur.
Voilà, ils ont quelque chose de commun,
oui.
Finalement.
Ah bah, c'est deux mecs
paumés. C'est pas Don Juan, mais oui. Voilà, ils appartiennent à ce même masculin possiblement égaré.
Mais les personnages féminins des deux se ressemblent aussi, je trouve. La narratrice, enfin l'héroïne de Feu... est aussi un peu égarée et ne comprend plus grand-chose aux hommes.
Hein. Bah, en tout cas, on peut les retrouver juste après le moment que je cernais dans Feu, c'est-à-dire la passion incendiaire. Là, j'imagine que ce genre de personnages, on les retrouvera un peu plus tard, à ce point de la vie où on a passé son temps à mettre le mot amour sur des échecs, des errances, des chutes, des passions élémentaires.
Ou comme des déceptions.
Déceptions. Des passions élémentaires comme celles dont je parlais dans Feu. Et puis, a priori, on ne va pas continuer. Voilà, il s'agit de se réparer soi, de regarder les autres, il s'agit de retrouver quelque chose dans la 16, enfin, toutes ces ambitions qu'on peut avoir à un moment donné, mais en tout cas de renoncer qui aux femmes, qui aux hommes, au sexe, aux sentiments,
au sexe, pas tout à fait quand même. La première fois qu'ils se rencontrent, c'est immédiat, ils vont immédiatement faire l'amour quand même. Moi, je dévoile un peu, mais ça donne envie.
Oui. C'est elle qui prend les devants immédiatement, mais c'est précisément, elle le dira plus tard, pour quelque part, déjà pour le désarmer, pour qu'il n'y ait plus ça entre eux, pour qu'il n'y ait plus la possibilité que s'exerce, parce qu'elle est assez radicale dans sa position, pour qu'on n'ait plus la possibilité que s'exerce la domination, le sentiment de domination qui peut aller avec le fait de se sentir proie, de se sentir désirée. Même ça, elle n'en veut plus.
Oui.
Donc elle inverse immédiatement les rôles... traditionnellement distribuée, c'est elle qui colle le mec au mur.
Oui.
En fait, l'illusion de régler le problème.
C'est une manière, oui. Et puis après, on a l'impression que son idéal, ce serait un colloque. Ce serait un colloque, un type qui serait un colocataire, mais pas la passion fatigante et épuisante.
Elle ne sait pas encore, en tout cas, ce qu'elle mentalise. Mais en fait, le mental souvent nous ment en la matière. Pour elle, comme elle est dans un instant post-burnout, thérapeutique, réparateur, elle ne sait pas encore bien ce qu'elle veut. Elle va le découvrir. En fait, elle veut d'Alexis, mais pas comme un amant ou un mari ou un compagnon tel qu'elle a pu en rencontrer jusque-là. Et alors, je ne sais pas si on peut balancer. Peut-être qu'on peut...
Balancer quoi,
vous? Tout le monde ne le lira pas. Donc
non, mais moi, je trouve que vous avez raison sur un point. C'est que souvent, on dit, oh, il ne faut pas divulgâcher. Mais non. En réalité, là, le livre est sorti mi-août.
Il est divulgué, on peut.
Non, mais on peut en parler. Divulgué, voilà, on peut en parler comme d'un grand classique de la littérature contemporaine. Et donc, alors sans révéler jusqu'au bout, peut-être pas, mais allez-y, vous êtes libre.
Donc la façon, comment elle va dompter Alexis et le risque qu'il emmène avec lui, il va devenir son sujet. En fait, la manière qu'elle trouve. La manière idéale de l'accueillir chez elle, même j'irais jusqu'à dire de l'accueillir en elle, c'est d'en faire un sujet, de le comprendre. D'où vient son obsession pour le plaisir? Pourquoi il a subordonné toute sa vie au plaisir depuis l'enfance? Pourquoi il est soumis à ce drame de la répétition? Donc répéter la séduction, la prédation, l'abandon, tout ça. Elle veut comprendre. Mais de la même façon que dans le Don Juan de Molière, le personnage d'Elvire, je ne sais pas si vous vous souvenez. Vous vous souvenez forcément, vous avez une formation classique. Elvire est celle qui veut comprendre.
Bien sûr.
Elle ne veut pas le condamner, elle veut... Et à la fin, elle le maudit quand même, s'il ne se répand pas, mais elle veut le comprendre.
Mais Don Juan est bien plus puissant et dangereux que ce gentil Alexis qui finalement, s'il fait du mal, c'est un peu sans le faire exprès. Enfin, en tout cas, vous le faites parler. Vous le faites parler à la fin du livre, et justement, puisque ça ne se fait pas, puisqu'ici on fait tout ce qui ne se fait pas,
d'accord.
Je vous demande de lire le monologue final.
Donc je ne réponds pas à la question, mais je...
De Don Juan. Si vous pouvez répondre à la question et ensuite lire, d'accord. Ou alors peut-être lire cet extrait est une manière de répondre à la question.
Oui, c'est ça. Allons-y, donc il y a des marques. Donc je lis à partir de la marque. Donc c'est Don Juan qui parle.
Mais non, je vous ai donné l'ordre de lire et donc c'est de la domination masculine.
Ah bah tout de suite. Voilà, je ne sais même pas ce que je suis encore là. Je m'en vais. Fatiguée de commettre une fois par jour le seul crime dont je m'avoue coupable. La répétition. J'ai tout répété de l'amour et à tout le monde. Je n'ai pas écrit des lettres. Je les ai réécrites. J'ai mal partout, cher public. Je n'ai rien dit de beau et de vrai qui ne fût redit. À force, menteur et usé. Je suis la chambre d'écho de mes propres serments. Aux plus malignes qui me voyaient venir, celles qui craignaient que je refasse, j'ai refait croire que je ne refaisais pas. 30 ans. 30 ans que je retrouve les mêmes femmes, ou presque dans les mêmes châteaux de la même vallée de Chevreuse, les mêmes chambres et leurs papiers peints reproduisant le même motif.
Comme chez La Pérouse, un peu.
Oui, c'est vrai qu'on est cerclé de papiers peints. Dans cette errance, tout se répète jusqu'à l'exceptionnel, qui finit par revenir tous les 3 ans. Alors là, la marque s'arrête, parce que Frédéric Becbédé est mégalomane, donc 3 ans, c'est un syntagme qui lui appartient, donc je vais poursuivre exprès. Mais
pourquoi est-ce que vous avez choisi 3 ans?
Non, c'est vous.
Pourquoi vous avez dit que c'était tous les 3 ans? Ça pouvait être tous les 3 mois.
Alors, va savoir, c'était peut-être un hommage inconscient.
Merci.
Ça serait si j'en suis là. Donc l'exceptionnel qui finit par revenir tous les 3 ans. Les différences, les contrastes, d'une femme à l'autre, alors qu'on s'enchante d'une nuance, on se souvient très vite qu'on la connaît. Simplement d'un autre pays, sous une autre lumière. Les phénomènes les plus soudains recommencent, les plus biologiques deviennent mécaniques. Alors plaignez-moi, je suis Don Juan qui répète avec méthode le désordre de sa chair et qui, les yeux fermés, relance la contagion amoureuse comme une grippe saisonnière. Bien sûr, je fus parfois comblé, j'ai été amoureux et souvent content. C'est d'ailleurs le moment le plus répété, que celui où il ne faudrait rien refaire et rien redire.
Merci beaucoup, Maria Pourchet, de vous être mis dans la peau d'un salaud. Et on enchaîne immédiatement avec Don Giovanni. Oui, alors c'est intéressant parce que Mozart commence par une attaque très violente, j'imagine, montrer le danger de ce genre de type. Et puis ensuite, c'est plus tendre, c'est plus doux. Et il y a cette espèce de mélopée, de répétition que vous avez aussi très bien décrite dans ce monologue final. Ça vous a fait du bien ou ça vous a fait plaisir d'être dans la peau de ce personnage insupportable ?
Ah oui, oui. Alors, par ailleurs, je ne suis pas sûre d'être dans sa peau. Je me vois plus du côté de la narratrice qui va devenir la narratrice. D'abord, c'est un jeu. Enfin, c'est la troisième personne et puis on comprend que c'est elle qui écrit. Je me suis plus amusée du côté de celle qui l'a couchée.
Oui.
Parce que j'ai toujours été, depuis mon enfance, assez frappée par le silence des hommes, par cette réticence à s'expliquer et même à se plaindre. Où finalement, et je les voyais auteurs à la fin d'un langage très rudimentaire qui passait par le cri, enfin en tout cas l'énervement, l'agacement rapide.
Ou la pudeur du cow-boy, puisque vous dites que les donjons sont les derniers cow-boys.
Voilà, la pudeur du cow-boy, enfin en tout cas, ou la paresse à parler, ou le risque de parler, différents risques qui ont pu peser sur la parole. Et j'ai toujours été obsédée par ce qu'il y avait dans ce silence.
C'est très gentil parce que vous faites comme si les dragueurs étaient des gens intelligents. Or, c'est souvent des idiots, hein, vous savez. Peut-être qu'ils ne pensent rien à part leur obsession et leur désir frénétique.
Bah peut-être. Peut-être que c'est la supposition que je fais dès l'instant où la tête d'Alexis. Donc, il faut répéter que c'est Don Juan au sens où il n'est pas pénalement criminel, il n'est pas pénalement coupable d'un crime de droit commun.
Hein. Non,
il n'est coupable
et
que
il
de
fait
Don
du mal. Il fait quand même beaucoup de mal.
À partir du moment où il y a sa tête. Dessiné sur une affiche wanted, tiens, qu'est-ce qu'il dirait s'il lui restait trois nuits et qu'il n'avait plus que ça à faire, qu'est-ce qu'il dirait pour expliquer voilà sa répétition, parce qu'il est et ça m'a beaucoup amusé, ça il y a eu de chercher pourquoi. J'ai interrogé beaucoup d'hommes sur pourquoi, ce que je disais tout à l'heure, pourquoi subordonner toute sa vie au plaisir, avec les conséquences que ça a, avec le mal que ça fait, avec et d'où ça vient, pourquoi on a besoin de
alors
ça.
Alors pourquoi ?
Pourquoi
C'est quoi la réponse ? C'est une drogue ? C'est peut-être une addiction à l'émerveillement.
Il faudrait que je relise. Ça mériterait de relire un extrait. Mais en tout cas, pour Alexis, il y a l'explication qu'il donne, c'est que lui, il était dans une mécanique de compensation où l'effort d'adaptation comportementale et sociale qu'on lui a demandé jeune était tel. Enfin, le fait de correspondre à l'injonction que son père avait mis dans les plis. Les plis de sa volonté à lui, il y avait quand même la volonté de son père qui était à la fois soit un champion et soit un homme. Et le mal que ça lui a fait d'essayer de faire ça, il l'a compensé avec des espèces de compétition, de challenge du plaisir
de conquête.
Permanent, oui. Qui ont écrasé sur le passage beaucoup de femmes parce qu'ils ne les voyaient pas comme telles. Et le problème, c'est que ça a duré. C'est d'ailleurs un peu le problème du Don Juan de Molière, hein, dès le départ. Oui. Ça a duré.
Et Don Giovanni aussi, bien sûr.
Il n'interroge pas, il ne voit pas ce qui est en face. Le crime de Don Juan, c'est l'aveuglement, surtout.
Oui, oui.
C'est qu'il ne...
Et les femmes sont des objets à conquérir.
C'est des surfaces de projection, de son propre narcisse à lui.
Et ce qu'il y a d'intéressant dans Western, de votre livre, Maria, c'est que vous donnez aussi le point de vue, si j'ose dire, de l'adversité, enfin de l'autre camp, de la victime et aussi de la femme amoureuse ou de la femme qui rencontre ce personnage. Donc il y a tous les éclairages. Vous ne choisissez pas votre camp et c'est ça qui est l'intérêt d'un roman.
Je pense qu'il est urgent de ne pas le choisir.
Oui, oui.
Les choses qui sont quand même en train de se faire, c'est pas...
Quand vous écrivez, on a encore
la possibilité et puis c'est la possibilité de la fiction, d'émettre toutes les hypothèses, de suspendre le jugement le plus longtemps possible. C'est le dernier endroit où on peut le faire. Donc non, effectivement, je m'en suis pas privée. Et
quand vous décrivez toutes les étapes de la séduction racontées du point de vue d'une victime qui, on peut le dire, va se suicider de chagrin d'amour tragique. C'est très intéressant parce qu'on. On comprend l'horreur que c'est, ce que fait ce garçon sans le vouloir, hein, de manière un peu écervelée et fascinée.
Ce que je voulais chercher à comprendre, c'était pourquoi celle-ci, parce que il a rencontré plein de femmes, Alexis, il a rompu avec plein de femmes, pourquoi celle-ci, à l'intersection de quelle détresse elle se trouve pour faire ça. Et finalement, Alexis est une variable, mais il y en a d'autres. Et j'avais envie d'observer ce moment fatal où toutes les détresses de cette jeune femme se rencontrent au même moment, dans un même corps, et ça donne ça.
Votre premier choix musical, Maria Pourchet, c'est Jean-Sébastien Bach, donc ça n'est pas Don Giovanni, mais la suite pour violoncelle seule numéro 1, qui est aussi quand même un morceau très romantique. C'était Jean-Sébastien Bach qui s'est exprimé à travers le talent de Yo-Yo Ma au violoncelle. C'était la suite numéro 1. Dans Western, Maria Pourchet, vous résumez en quelques mots, très brefs, la guerre des sexes. Vous dites, il y a la peur d'un côté et en face, la peur de faire peur. Moi, je trouve, en quelques mots, là, vous saisissez quelque chose du moment que nous traversons. Oui, il y a un danger dans la séduction, bien sûr. Un danger de viol, un danger d'agression sexuelle. Et puis en face, il y a des hommes maintenant qui ont peur de faire peur. Et ça, je pense que c'est très important sur le plan sociétal, ce que vous avez écrit là. Est-ce que c'était l'ambition de ce livre ou pas du tout?
S'il y a une ambition à ce livre et à peut-être d'autres que j'écrirai ou que j'ai écrit sur cette question, c'est que de pas participer à l'organiser, la guerre des sexes. Je pense que pour nos enfants, il est urgent de pacifier quelque chose. Moi, j'ai eu la chance de grandir et d'évoluer. On parle d'où on est, hein, je veux dire, blanche, éduquée, dans une société dite développée. Grandir dans un environnement antagonisé avec deux genres qui se regardaient et qui se vivaient comme totalement polarisés. Il me semble, à observer mes enfants, que c'est ce qui est en train de se produire. Et ça me terrifie. Donc si comme auteur, je peux participer à quelque chose, c'est-à-dire à réintroduire de la nuance et dans cette configuration
un peu simpliste,
en tout cas chez nous, voilà, il y a des endroits du monde où ça ne l'est pas, mais je crois que pour nous c'est pas aussi rudimentaire.
Alors vous avez parlé de la narratrice, c'est vrai qu'il y a donc Aurore et Alexis qui sont des personnages, et puis il y a une écriture omnisciente qui regarde les deux avec une certaine goguenardise. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est encore quelqu'un d'autre?
Alors là on divulgue tout parce que c'est mais très bien. En fait, ce jeu, c'est la narratrice Aurore, ce qu'elle va réussir à faire d'Alexis, comment elle va métaboliser Alexis et le désir qu'elle a pour lui, elle va en faire son sujet. Donc c'est elle qui est en train d'écrire sur Alexis. Elle est en train d'écrire, elle fait d'Alexis sa créature, parce que les auteurs, pour moi, il y a un côté méta dans ce livre. J'écris sur la fiction. Finalement, on peut tout aimer, tout embrasser, tout métaboliser si on en fait un bouquin. Et elle, comment elle conjure le danger que peut représenter le fait d'aimer Don Juan, elle en fait un livre. Elle en fait. Donc on ne sait pas au départ que, parce qu'elle n'est pas écrivain dans l'histoire, elle va le devenir. Et on ne comprend pas pourquoi elle tient à ce point à coucher Alexis. Lui, progressivement, il s'en rend compte, parce que lui, qui a toujours été du côté... elle lui demande de jouer et de raconter sa propre vie. Elle se met du côté du spectateur, en fait. Mmh. Elle lui demande de faire ce qu'il sait faire.
C'est une enquête. Sur un playboy.
C'est une enquête. Et il va s'y livrer, mais totalement, comme quelqu'un qui va mourir dans 2 heures. Et il fallait le prendre à ce moment-là de sa cavale, où il peut symboliquement, virtuellement disparaître. C'est d'ailleurs probablement ce qui va y arriver.
Oui, il est dans une sorte de tourmente ou de shitstorm, on dit en anglais,
Ou Tempête des troncs. Oui, parce que c'est vrai que c'est moins bien. c'est moins bien.
Tempête de merde. il est accusé d'être responsable de la mort d'une jeune femme, alors qu'il est bon. Voilà, il a juste manipulé. C'est vrai que c'est très grave. C'est très grave. Il a séduite et abandonné. Voilà. Mais c'est quelque chose qui est totalement légal. C'est bien le problème. Il y a un truc assez intéressant. À un moment, vous dites, vous imaginez qu'Alexis abandonne le rôle de Don Juan à une femme, et que ce soit une femme qui joue Don Juan. Alors, ça a déjà été fait, puisque c'était un film de Roger Vadim avec Brigitte Bardot dans le rôle, en 73. Mais là, je vous ai fait lire ce que dit Don Juan. Vous pensez qu'il y a des femmes qui pourraient aider Don Juan?
Qui pourraient aider Don Juan?
Qui sont des Don Juan?
Bah, bien sûr, oui. Avec... Mais j'aurais d'ailleurs pu, mais ça n'aurait pas du tout été le même livre. Et puis, j'aurais pas pu explorer le silence des hommes, comme je le disais tout à l'heure. Mais j'aurais pu très bien faire le livre sur une femme. Enfin, c'est... Oui, effectivement, il y a des femmes qui sont capables exactement de la même brutalité. Et peut-être pas pour les mêmes raisons, mais de cette séquence de... Parce que c'est qui Don Juan, en fait? C'est la brute séductrice qui aime s'en garder, dont la principale arme, avant même son physique et avant même sa situation sociale, parce que bon, c'est quand même socialement un dominant, c'est le verbe. C'est quelqu'un qui est capable d'établir un rapport d'hypnose, c'est un rapport sédatif presque par le discours amoureux, d'envelopper ses proies dans ce discours-là jusqu'à ce qu'elles ne puissent pas s'en passer. Je pense que même si le langage est ce qu'il y a de plus inégalement distribué, Je pense que des femmes sont capables de ça. Mais c'est ça, je pense et je sais.
Cette idée de lutter contre la guerre des sexes, bon, ça a aussi commencé un peu avec Virginie Despentes dans Cher Connard. Hein, elle faisait un livre qui commençait par être extrêmement agressif envers les hommes, et puis finalement, il y avait une tentative de réconciliation finale. Donc, il y a quand même une tendance, Dieu merci, certaines femmes, vous dites à un moment, appelées à la clémence. Mmh. Envers les hommes. Alors, tout en sachant que c'est des salauds, c'est des obsédés, ce sont parfois des débiles.
Ceux à qui elle s'adresse, le cher connard, effectivement, oui, c'est...
Mais en même temps, cette clémence, d'où elle vous vient? Parce que c'est une chance, hein, on a de la chance, nous, les idiots, d'avoir quelqu'un comme vous.
J'ai envie de dire, on a quelque part pas le choix. Elle me vient de plein... Je ne me sens pas dans une position de surplomb ou de sainte. Mes propres comportements amoureux n'ont jamais été toujours exemplaires parce qu'ils sont humains, ils sont tragiquement humains. Parce que j'ai grandi avec des frères dont je... Moi, j'ai de la chance. J'ai jamais eu le sentiment d'être dans les rapports amoureux trop abusés parce que femme. Donc c'est aussi plus facile pour moi. Je ne pars pas de la tragédie... j'ai un sentiment, ouais, je...
Non, mais c'est très bien.
Il y a autant de frères que de sœurs, en fait, donc Oui. C'est presque difficile pour moi de répondre à la question, puisque je n'ai jamais constitué l'autre en ennemi. Alors, c'est peut-être chrétien, parce que l'injonction...
Oui, vous en parlez, d'ailleurs.
Ma formation intellectuelle, heureusement, malheureusement, c'est le catholicisme, mais le credo, c'est « l'autre est ton frère ».
Oui, et puis le pardon est central dans le christianisme.
Il faut le regarder, y compris dans sa lâcheté, et voir à quel endroit, à quel endroit c'est le commun, à quel endroit c'est le même que nous, précisément au cœur de cette lâcheté.
Et puis,
ça m'intéresse, mais presque comme démarche intellectuelle.
Le livre s'intitule Western. Alors, il y avait déjà un livre qui s'appelait Western de Christine Montalbetti en 2010, mais ce n'était pas du tout le même projet. Mais je me disais, Western, pourquoi pas Cowboy? Ça aurait été pas mal, Cowboy, comme titre.
Bah parce que Cowboy, c'est pas exactement... Ça renvoie pas complètement au héros de western. Il y a des héros de western qui sont pas des cowboys. Le cowboy, c'est le garçon de vache. Il y en a plein qui le sont pas. Et surtout dans le western contemporain, la notion de cowboy, elle disparaît complètement. Elle est propre au premier. Tous les westerns qui ont la guerre de sécession en arrière-plan, les héros deviennent des cowboys. Mais sont des cow-boys au début du film. Mais c'est pas systématique.
Et vous dites d'ailleurs, j'entends par western un endroit de l'existence où l'on va jouer sa vie sur une décision. Et là, effectivement, il y a plusieurs personnages qui jouent leur vie sur un choix.
Les deux principaux, ouais.
Tout de suite, on va entendre votre choix de musique de western. C'est le thème du film 3h10 pour Yuma de James Mangold, sorti en 2007. Musique signée Marco Beltrami. Merci Maria Pourchet de me faire connaître Marco Beltrami, parce que moi j'étais resté à Ennio Morricone, mais c'était très bien aussi. On se retrouve après ces quelques messages.
Ce soir à 20h, vivez l'émotion du concert d'ouverture de la nouvelle saison de l'Orchestre National de Metz. Au programme, le concerto pour hautbois de Richard Strauss avec François Leleu, suivi de la première symphonie de Mahler, dite « Titan », dirigé par David Reiland. L'émotion des concerts, c'est sur Radio Classique.
L'œuvre pour piano de Ravel est élégante, raffinée, chatoyante. Philippe Bianconi y décèle la passion, la sensualité, la profondeur, l'intime. Des jeux d'eau au jardin féerique, une interprétation qui devient chair et âme, dans un abandon sublime. Philippe Bianconi, l'intégrale des œuvres pour piano de Ravel, un double album, La Dolce Volta. En concert Salle Gaveau, jeudi 5 octobre.
Tous les pianos Yamaha, la marque la plus jouée au monde, sont chez Nebouéam, l'adresse des plus beaux pianos à Paris. Piano droit, piano à queue, numérique, piano silent ou hybride, Nebouéam propose dans ses trois magasins le plus grand choix de pianos Yamaha au meilleur prix. Venez choisir votre piano Yamaha chez Nebouéam, le centre piano Yamaha à Paris. Rendez-vous sur nebou-am.com. Nebouéam, la passion des beaux pianos.
Thibaut Garcia, El Bohemio. Le guitariste Thibaut Garcia rend hommage au compositeur Agustín Barrios, figure légendaire de la musique classique sud-américaine. Thibaut Garcia, El Bohemio. Une nouveauté Erato, disponible dans toutes les FNAC.
Pour sa 17e édition, à Beauvais, Pianoscope entrelacera musique classique et jazz à l'image du pianiste-compositeur-magicien Thomas Enko, qui aura cette année carte blanche. Il s'entourera de Jean-Frédéric Neuburger, Ismaël Marguin, Sarah Nemtanou, Grégoire Corniluc. Et pour le concert final, Thomas Enko interprétera le concerto en sol de Ravel avec l'orchestre de Picardie, dirigé par Johanna Malengré. Pianoscope par Thomas Enko, les 13, 14 et 15 octobre à Beauvais. Tous les détails sur pianoscope.beauvais.fr.
La Dolce Volta présente l'intégrale des sonates et variations pour violoncelle et piano de Beethoven par Gary Hoffman et David Selig. Sous leurs doigts, ces monuments de l'histoire de la musique révèlent toutes leurs dimensions prémonitoires. Gary Hoffman et David Selig donneront en deux concerts l'intégrale des sonates et variations pour violoncelle et piano de Beethoven, Salle Gaveau à Paris, dimanche 8 octobre, à 15h et 17h30.
Amoureux de beaux objets anciens ou design, la plus grande foire à la brocante et aux antiquités de France, la Foire de Château, vous accueille dans une ambiance conviviale. Plus de 350 exposants vous présentent avec passion leurs plus beaux mobiliers, peintures, objets de collection classique ou vintage, l'occasion de chiner et de déguster de délicieux produits du terroir. La Foire de Château, un musée à ciel ouvert, jusqu'au 1er octobre, de 10h à 19h, à 10 minutes de Paris, par le RER A. Tous les détails sur foiredechâteau.com.
Frédéric Becbédé, sur Radio Classique.
J'ai quelques économies et je cherchais un placement qui ait du sens, avec un fort impact social. Je sais qu'Habitat et Humanisme fait un travail remarquable auprès des personnes en difficulté. Alors j'ai investi dans la société foncière d'Habitat et Humanisme, qui achète et rénove des logements pour les plus fragiles. Mon argent a une vraie utilité sociale. Et en plus, je bénéficie d'un avantage fiscal.
Avec la foncière d'Habitat et Humanisme, votre argent peut construire de très belles choses. Une nouvelle augmentation de capital est en cours. Plus d'informations sur habitat-humanisme.org.
Jusqu'à 20h, conversation chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
Alors, je suis toujours avec Maria Pourchet pour parler de Western, son nouveau roman paru chez Stock. Et Maria n'est pas partie. Et nous sommes toujours chez La Pérouse. Ce livre est en compétition dans plusieurs listes de prix littéraires très prestigieux et je vous souhaite de l'emporter. Il y a page 60 dans ce livre, une phrase que je voudrais vous faire commenter. Les femmes scrutent la mer, regardent approcher les marins et toutes, au moindre bruit nouveau aux abords des maisons, imaginent un pas. Et après le pas, quelqu'un qui dirait « c'est moi ». Toutes. Ça, je dois dire, c'est assez courageux d'oser dire une chose pareille
en
2023.
J'ai bien pensé que j'allais me faire allumer.
Non, c'est pas pour vous allumer, au contraire, mais dire qu'une femme attend toujours un homme, c'est une provocation.
Il n'est pas exclu qu'un homme non plus, par ailleurs.
Non, bien sûr, mais là, c'est ce que vous, vous prenez le point de vue d'une femme. Et l'idée qu'on... Parce qu'on est dans une période de revendication d'autonomie totale, quoi. D'indépendance sanctifiée.
Dans cet extrait, c'est au cœur même de l'accomplissement de son autonomie et de son indépendance totale. Quand elle retrouve la paix, elle retrouve l'attente. Et après, c'est son fils qui l'observe comme ça. On est un peu dans la tête du gamin. Il a l'intuition de cet éternel féminin. Lui, quand il la voit sur le perron de la maison le soir, qui fume sa cigarette et tout, pour lui, elle attend quelqu'un. Et je pense que l'enfant, il est près de la vérité. Il le sait mieux que sa mère, qu'elle est en train d'attendre quelqu'un. Parce que peut-être qu'elle se raconte autre chose.
Oui, mais vous essayez de ne pas répondre à ma question. Vous pensez que toutes les femmes attendent... Les femmes hétéros, attendent un homme... qu'on est tous, hommes ou femmes d'ailleurs, toujours en attente.
Je pense qu'attendre quelqu'un, c'est... Je crois vraiment que c'est l'élan vital. C'est le réflexe vital d'attendre quelqu'un dans la solitude. Je pense que quand on a cessé d'attendre quelqu'un, c'est la fin.
Et puis en plus, c'est romanesque. Et quand on est romancière, on a besoin aussi.
En tout cas, moi, je tiens à ce motif.
On a besoin de ça, bien sûr.
Et rien de ce que j'ai vu ou vécu ne m'a prouvé le contraire.
Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que votre sujet, qui est l'amour, c'est un sujet éternel. Donc le fond du livre est éternel. Stendhal, dans De l'amour, raconte à peu près la même chose que vous. Et... c'est la forme qui évolue. C'est-à-dire que votre forme est une forme qui a digéré pas mal d'influences. Un nouveau roman, une certaine ironie, une distance avec les personnages, une déconstruction des ellipses, une vitesse, des accélérations. Enfin bref, tout ça, c'est au fond pas éternel. C'est ça qui fait de ce roman un roman véritablement du présent, quoi. C'est un compliment, mais j'aimerais bien que vous réagissiez quand même.
D'accord, oui, mais moi, je trouvais ça génial. on m'a pas que parlé de littérature avec ce livre, donc
c'est une émission littéraire ici, pardon.
Vous me créditez aussi d'une culture que j'ai pas entièrement. Parfois, on peut effectivement métaboliser des références sans les avoir en tête, sans que ce soit forcément un référentiel présent. À titre de commentaire. Il est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup lu, que ça a été une grande partie de ma vie, que là, pour le coup, c'était conscient, c'était la préparation, c'était ma cagne et mon hypocagne à l'écriture d'un roman. Je me disais, j'ai toujours su que j'écrirais des romans, mais je lisais avec l'idée, avec un grand plaisir, mais avec l'idée d'une formation. Et donc, je pense que ça doit se...
C'est-à-dire que vous analysez tout, quoi. On sent que, par exemple, vous avez peut-être, je ne sais pas si c'est le cas, mais lu Proust.
Oui.
Il y a parfois même un risque de décrocher de l'histoire tant vous analysez, décortiquez les personnages et au détriment de l'émotion même, par moment.
Insistons sur le par moment.
Non, mais c'est que ce que je veux dire par là, c'est succomber à l'amour sans devenir complètement con. Est-ce que c'est pas ça la meilleure façon d'aimer en 2023?
Oui, de toute façon, c'est la seule possible, parce que là, pour le coup, il faut rester... Alors, le saut entre les deux sujets est un peu vertigineux, mais alors, oui, ça demande effectivement une certaine réflexivité, une certaine responsabilité, puisque la preuve que si on n'observe pas attentivement ses propres comportements, ce qu'il véhicule comme résidu de ce qu'on a appelé la domination masculine, la domination masculine, il y a un certain risque. Il y a un risque de sanction aujourd'hui. C'est en ça que le moment est singulier, c'est qu'il y a vraiment des sanctions, c'est pas virtuel.
Vous avez l'impression que les hommes, vraiment, quand vous rencontrez quelqu'un, ils ont peur, ils sont tétanisés ou ils sont...
Je rencontre, encore une fois, on parle d'où l'on vit, donc dans notre milieu privilégié, on assiste à des déclarations... parce que c'est déjà uniquement sur un plan déclaratif parfois, d'autocorrection, on voit beaucoup...
De confession, de culpabilité
on n'est pas trop dans la contrition, heureusement, mais c'est plutôt vraiment dans les comportements.
Ouais.
De surveiller ses comportements, son langage, et parfois
excusez-moi
de demander une validation.
De vous demander pardon, de éventuellement vous importuner.
Ça peut être aussi très agaçant. Y a une typologie qui a été faite de ces comportements-là à la fin du dernier roman de Chloé Delhaux, mais qui est absolument géniale. Ouais. Où elle fait... une typologie du quinca post-MeToo dans ces comportements-là.
Il y avait aussi ça dans le livre d'Emma Becker, le dernier livre d'Emma Becker que j'avais reçu l'an dernier, où c'était pareil, les mecs étaient... à la limite, c'était la femme qui devait prendre toutes les initiatives, tellement les mecs étaient immobiles.
Alors ça, je l'éprouve pas forcément. Oui, alors ça, on me le dit. Alors, je pense que ça fait partie de la génération d'après moi qui est davantage draguée, peut-être. Mais j'observe plutôt une réflexivité dont on peut espérer une réforme. C'est un peu l'illusion du western. C'est que si on va à l'ouest, il y a cette rupture. Et puis, cette rupture, elle va avec l'illusion de la remise à zéro. Voilà, l'Ouest va toujours avec le rêve de repartir de zéro, le rêve de la réforme.
Voilà.
Et il y a deux trois trucs qui nous font espérer une réforme,
mais ça prendra quelques années, mais
oui,
il y aura un nouveau code.
C'est pas chez nous que c'est le plus urgent, quoi.
Oui.
Nous, on a affaire à des prédateurs de salon. Hein. Donc, on parle de ça. Western, c'est un Alexis dans Western, c'est un prédateur de salon, c'est pas un criminel.
Alors il y a un jeu dans cette émission, je crois que vous avez déjà écouté l'émission, donc vous le connaissez, ça s'appelle « Devine tes citations » et je vais vous lire des phrases de vous, Maria Pourchet, que j'ai choisies dans toute votre œuvre. Ne regardez pas, on sent que vous voulez tricher, je cache mon papier. Donc je vous lis des phrases de vous, vous devez deviner dans lequel de vos livres vous avez écrit ceci. On tourne une page, on ne fait pas attention, on s'est pris 18 ans dans la vue.
Ah, ça, c'est le début des Impatients.
Oui, 2019. C'est avec ce roman que je vous ai découverte, c'était le cinquième, le portrait d'une workaholic qui laisse tout tomber, déjà d'ailleurs, comme dans Western, elle laisse tout tomber pour lancer des cosmétiques aux algues. D'où vous était venue cette idée?
C'est un roman qui était vraiment fondé sur une enquête. J'avais rencontré une trentaine de jeunes dirigeants français, donc dans les entreprises cotées, dans les services publics.
Ah oui, carrément.
C'était au départ, comme je suis sociologue de formation, c'était une étude qu'on m'avait commandée et j'étais incapable de restituer. Le matériau que j'avais en fait pour parler de ces personnalités-là, leur ambition, de ce qui pouvait les mouvoir, ce qui me paraissait très très différent des générations d'avant. Le rapport au pouvoir notamment était très différent. En gros, c'était la génération de Macron, quoi. C'était ceux qui étaient dans la même promo. Et j'avais besoin d'une fable. J'avais besoin de me mettre un peu dans la peau d'un écrivain moraliste pour raconter ça, parce que j'y arrivais pas autrement. Et donc
ça vous a beaucoup servi d'avoir étudié la sociologie, parce que c'est vrai que on peut dire que vous êtes dans la lignée d'un Welbeck par exemple, ou d'un autre écrivain que j'aime beaucoup qui s'appelle Marin de Viry, qui fait de la satire aussi très observée sur le social.
Je pense que la sociologie m'a aidé, mais elle me piège aussi. Il y a un risque à la sociologie, ça stérilise beaucoup le réel, les émotions, donc
les statistiques.
J'essaie régulièrement de la mettre à distance pour pas avoir des personnages trop sociotypés non plus.
Mais vous savez quoi ? Je trouve que dans votre façon de parler...
Je ne vais jamais finir une réponse.
Non, je vous interromps beaucoup, ça, c'est vrai,
parce
pardon.
Que vous êtes... Ça, c'est parce que vous êtes un homme.
C'est du male mansplaining.
Ouais, voilà.
Mansplaining. Bon, j'arrête de parler. Non. Je ne parle plus. Débrouillez-vous.
Je vais faire les questions et les réponses. Mais franchement, oui. C'est bien mérité.
Voilà. Non, je... pardon, parce qu'en plus, j'interromps non, mais rarement. Mais en fait, je voulais dire que quand vous parlez de votre livre... On retrouve la sociologue, mais pas du tout quand on le lit. Quand on vous lit, il n'y a pas tous les termes sociotypés que vous employez dans les interviews. C'est ça qui est étonnant. C'est comme si vous étiez plus sociologue quand vous parlez de votre livre.
Oui, c'est vrai, mais quand je dois parler de mon livre, je suis tout de suite dans un exercice où je retrouve les rails de la recherche, de l'analyse. Mais c'est très compliqué de faire autrement. Puis à un moment, j'essaye même plus, quoi. Parce que c'est... Voilà, on est tous le produit... d'une formation,
oui,
d'une histoire, vous venez de la pub,
oui.
Il y a plein de réflexes que vous devez retrouver,
qu'on entend.
Mais j'aimerais bien m'en débarrasser à un moment ou à un autre. Ouais, parce
mais
que
dans ce que vous écrivez, je vous répète, ça ne se voit pas. Ça se voit sur le fond, sur la construction des histoires, mais pas
dans la forme.
Et parce
que ça me sert en amont. Ça me sert à savoir d'où viennent mes personnages. J'ai vraiment besoin de savoir, effectivement, leur milieu, quels moyens avaient leurs parents, quelles conditions ça leur a ouvert, quelles voies ça leur a fermées. Puisque, même si je ne crois pas, j'ai pas la religion des déterminismes sociaux, mais quand même, c'est pas quand même rien, quoi. Vous parliez de Houellebecq, je pense que Houellebecq fait à peu près la même chose.
Oui, oui. Mais lui, il n'a pas la même formation que vous. Il est ingénieur agronome.
C'est une partie d'un autre... C'est pire, ingénieur. Oui.
Alors, autre phrase, Maria Pourchet. Avant, rentrer chez toi, c'était normal. Désormais, rentrer, c'est comme vieillir, comme perdre.
C'est feu.
Oui, 2021. Mmh. Alors là, l'héroïne s'appelle Laure. Et comme Reine dans Les Impatients, comme Aurore dans Western, je la définis, comme une post-romantique. Je pense que vous avez créé quelque chose dans la littérature, c'est le post-romantisme. C'est-à-dire, oui, on veut avoir le cœur qui bat, on veut tomber amoureux, oui, à la passion, mais avec quand même une petite distance. Un peu plus d'information et un peu moins de premier degré, voilà.
Je suis bien contente que vous puissiez étiqueter ce qui pour moi est ma propre névrose, parce que pour moi c'est l'histoire de ma vie. Quoi. Voilà, j'ai toujours eu envie de me vautrer dans le romantisme et dans l'abandon que ça demande. Et puis il y a toujours une part qui dit « Ah !»
Eh oui, t'es en train de te faire avoir.
Voilà, quel endroit. Non, mais t'es en train de te faire avoir, c'est d'analyser ce qui est en train de se passer au moment où ça se passe. Quoi. C'est épuisant. C'est vraiment épuisant le post-romantisme. Je ne conseille pas comme pratique.
Non, mais j'y suis complètement, personnellement. Alors, votre second choix musical, c'est Pergolese, Stabat Mater Dolorosa, avec l'orchestre Mozart, dirigé par Claudio Abbado en 2007.
Thank you.
Merci beaucoup, Maria Pourchet, pour ce très beau choix musical. Vous trouvez un peu plombant, mais ça fait du bien aussi, hein, la mélancolie. Alors, encore des phrases de vous, pour vérifier si vous écrivez bien vos livres vous-même.
Oui, c'est moi qui les écris. Voilà. Ouais.
Avec toute la bonne volonté du monde, on en revient toujours au pinard. C'est terrible. Et j'espère que le petit l'apprendra le plus tard possible.
C'est le premier, ça, avancer.
Et, oui.
Et j'aurais pas trouvé. S'il n'y avait pas eu le petit,
hein,
là, je me révélais comme un Paul Loup sous Lutzer de base.
non, pas du tout.
D'où
non,
ça
mais
sort.
Il y a beaucoup d'invités qui ne se souviennent plus de leurs livres et d'autres qui sont hypermnésiques, comme Amélie Nothomb. À chaque fois, elle trouve tout de suite. Alors qu'elle en écrit un par an depuis plus de 30 ans.
Ouais.
Incroyable. Donc là, c'était avancé en 2012.
On ne peut rien généraliser à partir d'Amélie Nothomb. Ouais.
Dans ce premier roman, il y avait déjà beaucoup de cynisme. Et puis, il y avait Victoria. Et vous disiez, Victoria, c'est moi, 28 ans, née Marie-Laure, se tient disponible à tout ce qui pourrait lui tomber sur le coin de la figure. Est-ce que vous continuez à vous tenir disponible à tout ce qui pourrait vous tomber sur le coin de la figure?
Non, je ne peux plus du tout observer cette position du guetteur qui était tellement... Parce qu'elle va vraiment avec une part d'illusion.
Maintenant, mère de famille...
Oui, voilà. Non, c'est super. Mais en tout cas, ça autorise pas ce genre de relâchement. Je vais attendre ce qui me tombe sur le coin de la figure. Oui, ça.
Non.
Tu vas voir.
Non, mais c'est le post-romantisme. On y revient. Le post-romantisme, c'est pas le romantisme de quelqu'un de 20 ans. C'est le post-romantisme. Ouais. Alors, dernière phrase de vous. Je suis une connasse. Pardon. Je suis une connasse occupée à tuer sa mère dans un livre.
Ça fait mal, ça. Ça, c'est toutes les femmes sauf une. Je me souviens pas l'avoir écrit aussi littéralement.
Et pourtant, si.
Ouais, d'accord.
Toutes les femmes sauf une en 2018.
Ça fait un bien fou de dire je suis une connasse.
C'était un règlement de compte avec une mère toxique. Livre très différent des suivants. Est-ce qu'il vous a libéré ou est-ce que depuis vous fuyez cette rage qu'il y avait dans ce livre-là?
Je dirais pas que c'est un règlement de compte. Il y avait effectivement quelque chose du nettoyage, mais je n'avais pas, ça va paraître paradoxal, mais pas le sentiment de m'adresser autant à l'image de la mère en général, à l'image des femmes de ma lignée. Je m'adressais à moi-même. Je m'adressais à une colère en moi. En regarder d'où elle arrivait et de voir comment je pouvais la calmer en faisant quelque chose.
Parce que dans vos livres, il y a souvent des personnages de mère un peu toxiques, qui donnent des leçons. Non, ça m'a semblé.
Oui, bien sûr, oui. C'est
cette espèce d'injonction de la mère et les relations mère-fille qui sont quelque chose de quand même assez cauchemardesque, mais en tout cas littéraire. Enfin, ça a été traité souvent, mais...
Mais c'est une façon aussi de pas aborder la question du père. J'ai des relations compliquées effectivement avec la mère en général. Je pense que il y a même une part de moi qui diabolise cette figure et pour des raisons objectives et puis pour des raisons presque comment dire de l'ordre de l'onirique ou de l'angoisse qui me fait projeter sur la figure de la mère.
Parce que vous l'êtes devenue aussi, peu trop, peut-être. C'est aussi le fait quand on devient mère, on se dit finalement c'est.
Oui, je pense qu'en à mesure des années, je ne regrette pas ce livre, mais sa violence quand on commence à mettre à peu près.
Oui.
Mais parfois étrangère. Je la reconnais.
Il est très différent de vos autres livres, ce livre-là.
Surtout une étude. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est surtout une étude du langage. Ce que je voulais faire dans ce livre, c'est de dire si le langage était un crime, je veux dire, toutes les injonctions qu'on nous adresse, je me suis vécu à un moment comme le crime parfait du langage, à force d'avoir essayé de répondre aux injonctions, y compris aux injonctions paradoxales, ce que j'appelle la rhétorique du tiens-toi droite. C'est-à-dire, toutes les injonctions faites aux filles par les femmes.
Oui,
c'était ce phénomène-là, cet endroit singulier du tort fait aux femmes par les femmes.
Exactement, ça c'est très intéressant. Le féminisme, d'ailleurs, le vrai bon féminisme analysait ça à l'époque, Simone de Beauvoir en parlait, vous voyez. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a tendance un peu à dire que les hommes, c'est la faute des hommes, mais il y a un travail à faire chez les femmes aussi, principalement d'ailleurs. Bon, bref, peu importe, je n'ai rien à dire là-dessus. Ah, j'ai au téléphone Romain Gary. Tiens, Romain Gary, oui?
Pour rien au monde, je ne recommencerai ni ma vie, ni celle d'un autre, ni rien. Je ne vais absolument rien recommencer.
Est-ce qu'il ne vous pose pas une question là? Est-ce que vous, par exemple, si vous pouviez refaire votre vie, vous la revivriez de la même manière?
Oui.
Ah, donc vous n'êtes pas d'accord avec votre idole?
Ça. Enfin, recommencer, c'est ça voudrait dire que tous les embranchements, tous les mouvements qu'on a fait, les embranchements qu'on a pris, les relèvent de choix conscients et réfléchis. Donc, si c'était le cas, bah, je dirais, là, je veux recommencer, là, je referais différemment. Mais il y a toute une partie de ma vie où j'ai eu le sentiment d'être l'objet de quelque chose, l'objet de mes propres conditionnements, l'objet du désir des autres, l'objet de différentes injonctions sociales, professionnelles, familiales, l'objet de l'histoire des femmes de ma famille. Donc, c'est très compliqué de dire je referais différemment ou pas.
Et pourquoi est-ce que lui, qui est un de vos écrivains préférés, Romain Gary, il répond « Ah non, je voudrais absolument rien refaire pareil. » C'est étrange quand même.
Bah parce qu'il serait déjà passé par là. Je veux dire, non, ça serait pas intéressant.
Je pense qu'il était malheureux, peut-être.
Et tout simplement, je pense que Romain Gary était moins que
lui.
Ouais.
Vous êtes moins que lui.
Il voulait être beaucoup. Ouais. Il voulait être beaucoup à la fois. Et il voulait habiter cette vie dans des absolument totalement. Et il n'avait qu'un seul corps et qu'une seule vie.
Lui aussi avait une maman très toxique, probablement très étouffante.
Ouais, mais c'est pas le même genre.
On a au téléphone Colette.
Je supporte de plus en plus mal ce que j'appelle la littérature, surtout dans mes propres œuvres.
Oui, la question que pose Colette, c'est la forme.
Cet accent-là, Colette ?
Oui, bien sûr, elle roulait les airs, oui, une bourguignonne. Oui. Mais elle venait souvent chez La Pérouse, Colette. Hein. Ah. Oui, oui.
C'est quoi ça? Parce que du coup,
alors elle dit, je refuse la littérature. La littérature, en gros, ce qu'elle veut appeler les gens qui se regardent écrire, quoi. Oui. Vous allez toujours au plus simple, non? Ou est-ce que vous avez l'impression de travailler énormément?
Alors, ça fait longtemps que ce que je dis est plus important et un peu plus important que la façon dont je le dis. Reste que la façon dont on le dit. Fait tellement partie du sens que je peux pas dire que je travaille pas le style, mais peut-être que, alors là attention, faut me suivre, hein, je sais que j'entends toutes les contradictions dans ce que je dis, mais peut-être que le style c'est de conserver la phrase telle qu'elle vient immédiatement, parfois avec sa brutalité, avec ses fermetures, avec son adjectif,
aussi,
sa vitesse, son galop.
Vous êtes très énergique. Vous êtes peut-être plus énergique que Colette. Mais elle allait toujours au plus simple. Bref, c'était...
Mais en même temps, c'est ma simplicité. Enfin, finalement, la simplicité, c'est la forme pour un individu. C'est la forme que prend immédiatement la pensée telle qu'elle sort. Il se trouve que la forme de mes phrases correspond à la façon dont je les pense.
Oui,
c'est
pas... c'est ça le style.
Peut-être.
Et alors, vous savez que c'est un endroit hanté, La Pérouse. Il y a également Françoise Sagan qui passait par ici. Oui.
On est bien reçus. Hein.
J'ai toujours eu des reproches comme ça, comme les petites filles avec les grands-oncles un peu sévères. Pourraient faire mieux, n'a pas soigné sa copie, aurait dû faire plus long, aurait dû faire plus court, n'a pas soigné son style. Des reproches d'enfants.
Oui, elle dit quelque chose d'assez juste.
La rhétorique du tiens-toi droite, c'est ça.
Oui.
C'est de ça qu'on est le produit.
Oui, mais là, c'est encore plus désagréable parce que on publie dans une rentrée littéraire, il y a un côté paternaliste de tout le monde. La critique, les éditeurs, les jurys des prix littéraires, on a l'impression d'être un enfant, c'est vrai. Vous avez ce sentiment-là en ce moment ?
C'est pas que paternaliste, parce que ça s'exprime autant par des hommes que par des femmes.
Oui. Disons d'être infantilisé.
Ou ramené à quelque chose de scolaire, où on va vous dire c'est bien ou c'est pas bien, ou des gens qui ont une autorité déclarée, une autorité intellectuelle déclarée, comme un prof, en fait. Alors, c'est une façon de le regarder, mais moi, je le ressens pas comme ça. Enfin, les jurys scolaires, universitaires, je les ai tellement subis que...
les vrais.
Ouais, que quelque part, c'est un peu dégonflé comme frayeur.
Vous n'avez pas l'impression, quand vous publiez Western, que vous êtes une élève qui va être notée par des gens très sérieux, très ennuyeux, il y a une excitation quand même dans la publication?
Ça c'est le propre de septembre, c'est le côté un peu boucherie du mois de septembre on sait. Moi, je trouve que je m'en tire pas trop mal, donc. Mais l'impression que j'ai, là, je le sens particulièrement, en tout cas, que le livre peut diviser et que il a suggéré des humeurs. J'insiste sur des humeurs parce que c'est pas la critique, c'est très intéressant. La critique comme exercice intellectuel articulé, en plus moi elle me sert. J'aime beaucoup quand mon livre sont critiqués. Il y a des critiques que j'ai reçues pour feu qui m'ont été utiles. Après les humeurs, bon, ça a aussi un vague statut journalistique. Ça, c'est quelque chose que je connaissais pas, qui, comme son nom l'indique, ne traduit que l'humeur.
C'est votre premier livre
que celui qui l'énonce
plaît autant qu'il déplaît, c'est ça.
Ouais, il y a beaucoup de. Et ça, c'est un peu la nouveauté, mais ça fait bizarre la première fois, puis après, on comprend très vite ce qui motive ces humeurs-là, mais. Voilà,
ça, je ne sais pas. Moi, je sais pas. J'ai pas d'explication sur.
Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que j'avais pas été ni éreinté, ni attaqué auparavant parce que.
Ouais. Parce que vous n'étiez pas encore importante.
Voilà. Et ça, c'est un aspect du succès dont on m'avait parlé.
Voilà.
Mais
oui, c'est la preuve que la preuve de la gloire, c'est.
Mais je l'imaginais pas se démontrer de manière aussi mathématique, quoi. C'est lié au niveau de vente.
Oui, c'est ça.
Et quand vous parlez des profs, oui, il y a le côté un peu sanction. Il y a le côté un peu sanction qui peut rappeler l'appareil scolaire, mais pas plus, quoi.
Alors, le troisième choix musical de Maria Pourchet, c'est Erik Satie. Très, très bon choix, la gnossienne numéro 1. C'était Erik Satie, quelle beauté, interprété par Alexandre Tarot au piano en 2008. Maria Pourchet, merci infiniment d'être venue passer une heure en notre compagnie. Et oui, c'est passé très vite. Et je conseille vraiment à nos auditeurs et auditrices de lire ce grand roman d'amour, analytique, intelligent, drôle, et surtout qui nous montre que les êtres humains ne sont pas résumables. Et tel est le rôle du roman dans le monde des big data, c'est de compliquer les choses. Merci à toute l'équipe, le producteur Philippe Gault, Mathieu Roque-Lago à la réalisation, sans oublier Jérémy Bigori pour la programmation musicale, dans un instant sur Radio Classique. Le grand concert du samedi. Ce soir, Laure Maison nous invite au concert d'ouverture de l'Orchestre National de Metz, dirigé par David Reylan. Je crois que j'ai à peu près tout dit, alors je vous souhaite un bon samedi soir. Et un bon dimanche, et aussi un bon lundi, et une bonne semaine, et à la semaine prochaine.